Eh bien, bonjour. On va pouvoir commencer ce nouveau débat à propos de l'espace. Pourquoi y aller ? Bonne question. Donc avec moi, il y a Éric Pichol, un physicien des lasers au CNRS, auteur de nouvelles et essayiste, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix de l'Imaginaire pour « Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein ». C'est un grand spécialiste de Robert Heinlein, un livre qu'il a écrit en collaboration avec Hugo Bellagamba. Il anime également les colloques de Peresque. Ce sont des journées, et les journées enseignement et science-fiction. Bon, c'est un colloque qui se déroule dans un petit village en haute montagne et où pendant quelques jours, des écrivains de science-fiction et des chercheurs, des universitaires discutent autour de thèmes divers de science-fiction.
Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine de présenter Claude Eken. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont lu, puisqu'il a une très longue carrière d'écrivain et de nouvelliste de science-fiction. Je dirais que le plus simple, c'est ceux qui l'ont lu le connaissent et l'apprécient. J'imagine que de voir aussi nombreux, c'est pour une part grâce à la plume de Claude. Et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas lu ont une énorme librairie juste à l'étage en dessous, et n'hésitez pas à aller chercher les ouvrages de Claude, ça vaut tout à fait le détour.
Merci. Alors, pourquoi aller dans l'espace ? Évidemment, il y a de nombreuses raisons. L'exploration de l'espace, l'exploration directe et puis l'exploration de l'espace lointain, par exemple au moyen de télescopes. L'occupation de l'espace, essayer d'aller vivre dans l'espace, on a bien des stations orbitales. L'exploitation également, retraitement d'astéroïdes par exemple. Et puis, dans un avenir plus lointain, la colonisation d'autres mondes. Et puis enfin, un dernier point, c'est la gestion. Donc, parmi toutes ces questions, qu'est-ce qui pourrait être le plus essentiel, ou du moins le plus envisageable actuellement?
C'est difficile à dire. Je dois dire que le plus frappant pour moi, c'est pas tant ces questions qui se posent depuis un demi-siècle, depuis qu'on a lancé depuis qu'on a réalisé la possibilité d'aller dans l'espace. C'est plutôt le changement de mentalité au cours des dernières années. Moi, j'ai une grosse cinquantaine d'années, donc j'étais assez grand pour voir les premiers pas d'Armstrong sur la Lune. Pour les gens de ma génération, c'était une évidence que on aurait la possibilité d'aller passer le week-end sur la Lune quand on aurait 40 ans en l'an 2000, et ensuite évidemment Mars, le système solaire, et pourquoi pas un peu plus loin. La grande surprise, c'est que d'une part ces promesses n'ont pas vraiment été tenues, et d'autre part que je vois beaucoup de jeunes ici, j'en suis ravi, mais quand on discute avec des jeunes gens aujourd'hui, cette évidence semble avoir disparu, ce rêve semble sinon avoir disparu, du moins s'être un petit peu amorti, et un certain nombre d'évidences qui ne méritaient même pas d'être discutées il y a 50 ans ou il y a 30 ans, il y a seulement peut-être encore 10 ou 15 ans, deviennent aujourd'hui de moins en moins évidentes, et ça se traduit évidemment dans les esprits, ça se traduit dans les âmes, mais ça se traduit aussi dans les politiques. Tous les enjeux que Claude a évoqués sont des enjeux qui pour une part sont politiques et économiques. Une évidence, s'il reste une évidence, c'est que si on doit aller dans l'espace, c'est un énorme projet. La dernière fois ça s'est passé, le programme Apollo, c'était à l'échelle des États-Unis, c'était l'effort d'un État continent tout entier pendant une décennie quasiment pour aller jusqu'à la Lune, qui est le tout premier pas, qui est quasiment la banlieue de la Terre. Si on veut aller plus loin, si on veut retourner sur la Lune, il faudra un effort au moins comparable. Si on veut aller sur Mars et au-delà, c'est un effort au minimum d'une quinzaine d'années. Ce sont des chiffres ce sont des budgets qui se chiffrent probablement en centaines de milliards de dollars ou d'euros. Et la question qui se pose immédiatement, et qui est celle que nous proposaient les Utopiales dans le résumé de cette session, c'est est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire avec ce budget-là ? Et je pense que ce qui va sous-tendre toute cette discussion, c'est effectivement, est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'aller dans l'espace ? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons économiques ? Et sinon, qu'est-ce qui peut nous mener là-bas ?
À partir du moment où on pose la question de l'économique, il y a surtout le problème du retour sur investissement. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à injecter de l'argent dans une exploration, une course à l'espace, en attendent bien entendu des retombées. Les retombées, ben, ça peut être aussi tout ce qu'on a imaginé pour permettre d'envoyer des machines dans l'espace, avec ou sans humains, ont permis pas mal d'applications que l'on retrouve aujourd'hui dans la vie courante. Ça a été imaginé d'abord dans le but de l'exploration spatiale. Maintenant, il peut y avoir d'autres ressources économiques, mais on veut quand même récupérer son argent. On en a un exemple très frappant, par exemple, avec la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, ou même peut-être Révolte sur la Lune de Heinlein, où à partir du moment où des humains se trouvent sur un autre monde et commencent à le coloniser, on attend d'eux qu'ils envoient des ressources à la Terre qui a financé et qui a permis le voyage.
Oui, c'est évidemment un thème qu'on retrouve chez de très nombreux auteurs. Je pense que c'est pour à la fois de bonnes et de mauvaises raisons. C'est pour de bonnes raisons narratives. C'est une raison qui est facile à comprendre, donc il est relativement facile d'écrire une bonne histoire à propos de ça. L'appât du gain est une des passions humaines qu'il est relativement facile à décrire dans un roman. Si on regarde ce qui se passe du point de vue, enfin la réalité politique, je pense que les enjeux sont un peu d'une autre nature et pour le coup beaucoup plus difficiles à caser dans une histoire courte ou dans un roman. D'une part, parmi les enjeux, si on regarde l'histoire d'Apollo, puisque c'est la seule véritable référence qu'on ait ici, les principaux enjeux étaient de nature politique avant d'être économique. La pression, c'était la course aux armements. La toute première proposition d'une fusée lunaire, on parlait de Robert Heinlein à l'instant, c'est Robert Heinlein qui, non pas en tant qu'écrivain de science-fiction, mais en tant que... c'est un ancien officier, il a passé la guerre dans l'US Navy, ou dans un laboratoire de l'US Navy. Le jour même de la capitulation du Japon, évidemment, il a démissionné essentiellement pour aller faire de la politique, et 15 jours après, il était à Los Alamos pour travailler avec les atomistes sur les conséquences de la bombe atomique. Mais sa lettre de démission a fini sur le bureau du président Truman, parce qu'il a démissionné en disant, maintenant, de toute évidence, avec l'existence de la bombe atomique, puisqu'on est aussi au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki, avec l'existence de la bombe atomique, l'US Navy, pour laquelle je travaillais il y a quelques jours encore, est complètement démodée. On n'a plus besoin de bateaux, on n'a plus besoin de sous-marins, on n'a plus besoin de chars, on n'a plus besoin d'avions, on n'a plus besoin que de fusées. Le futur géostratégique de l'humanité, ça sera la possibilité de bombarder son ennemi avec des bombes atomiques sur des distances transcontinentales. Pour ça, on a besoin de fusées. Et pour faire des fusées, comme on ne peut pas dire à la population qu'on a besoin de développer des missiles intercontinentaux, disons-leur qu'on va développer des fusées pour aller sur la Lune. Et la toute première proposition, donc on est en août 1945, c'est de développer une fusée lunaire encore inhabitée à ce stade pour aller sur la Lune, sachant que la technologie en question, c'est exactement la même technologie que la technologie des V2 qui avait effectivement été développée par les nazis pour bombarder Londres. Là, des côtes de la Manche vers Londres, on a quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres. La génération suivante qui était en cours de développement par les Allemands aurait pu aller probablement à 2-3 000 kilomètres. Moscou est un peu plus loin que ça, un peu plus loin, on parle de 6, 8, 10 000 kilomètres. Là, il fallait des fusées balistiques capables de sortir de l'atmosphère, et quitte à les faire sortir de l'atmosphère, on peut aller un petit peu plus loin, aller jusqu'à la Lune. Le second moteur, alors, on a effectivement développé des missiles intercontinentaux. Vous connaissez tous l'histoire des années 50 et de la course à l'armement et de la guerre froide. L'étape suivante, ça a été une étape symbolique. Celui qui arriverait à mettre un homme sur la Lune, alors d'abord un homme dans l'espace, les Russes ont réussi à battre les Américains dans cette course-là. Le premier homme dans l'espace, c'était Yuri Gagarin, un Russe. Et c'était insupportable pour les Américains de laisser entendre que l'URSS, donc un régime communiste, était plus performant qu'un régime capitaliste, que les États-Unis. Donc il était important de battre les Russes au poteau pour le symbole suivant, qui était de mettre un homme sur la Lune. Et là encore, vous savez tous que ça a pris 10 ans, mais entre le vol de Gagarin et le 21 juillet 69, où Armstrong a mis le pied sur la Lune, les deux superpuissances de l'époque, à savoir les États-Unis et l'URSS, se sont livrés une concurrence acharnée pour développer des fusées suffisamment puissantes pour amener des hommes sur la Lune. Le problème étant que, alors, ça a été une superbe aventure, ça a marché, On n'a pas compté à la dépense. Les retombées, comme le disait Claude, ont été énormes dans tous les domaines. Pour vous donner une idée, tout ce qui relève de la miniaturisation dérive de là. Le problème d'envoyer un homme sur la Lune, c'est qu'il fallait lui mettre un ordinateur. Un ordinateur, à l'époque, c'était quelque chose qui emplissait quasiment le rez-de-chaussée du Palais des Congrès. Il n'était pas concevable de le mettre dans des fusées. Donc, on a miniaturisé les ordinateurs, on a miniaturisé toute l'électronique de commande. D'une façon générale, tout ce qui était susceptible d'être utile dans un voyage aussi complexe, mais qui pesait trop lourd pour être arraché du puits de gravité terrestre, a dû être miniaturisé. Et toutes les retombées qui ont suivi, donc tout, ça va du transistor à la microélectronique, et d'une façon générale, la nourriture, enfin, tout ce qui a fait toutes les industries qui ont fait toute l'économie des années 80-90, tout ce qui est à base de microélectronique, tout ce qui est à base de micro-informatique, est une retombée de l'espace. Et pour autant, quasiment immédiatement, on a abandonné cette aventure-là. Les Russes ont arrêté tout de suite. Ils ont vu qu'ils étaient battus, que le premier homme sur la Lune était un Américain. Ils ont arrêté leur programme purement et simplement. Ils ne souhaitaient pas être les seconds. Donc il n'y a pas eu de Russes sur la Lune. Et à partir du moment où il n'y avait plus ce moteur de la concurrence avec l'Union soviétique, les Américains ont arrêté également très très vite. Le premier homme sur la Lune, c'est 69. Le dernier, c'est 72. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés en 72. Donc l'aventure lunaire de l'humanité, c'est essentiellement 3 ou 4 ans. Et 3 ou 4 ans, à l'époque, quasiment de vos grands-parents.
Voilà, on a l'impression que les concepteurs de l'époque se disent « Bon voilà, ça c'est fait, on coche, et puis on n'en parle plus. » Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est incapable de revenir sur la Lune. On n'a plus les moyens techniques et technologiques, on ne sait plus faire, on l'a perdu. Alors que pourtant, on a quand même bien progressé sur le plan technologique et dans tous les autres domaines.
Donc, je vais juste te donner un chiffre ici. Pour vous donner un ordre de grandeur, Saturne V, donc le lanceur qui a amené les hommes sur la Lune, le lanceur américain, était capable de mettre 140 tonnes en orbite basse. La navette spatiale américaine, qui ne vole plus, donc qui est aussi un programme arrêté, était capable d'amener 80 tonnes, y compris la structure. Donc il n'y avait que 20 tonnes utiles. Donc on avait déjà 7 fois moins de charge utile entre la navette spatiale des années 80-90 et la Saturne V des années 60. Et aujourd'hui, on a des programmes qui vont peut-être développer dans un futur proche des lanceurs capables d'amener 10 ou 20 tonnes en orbite basse. Donc on est quasiment en ordre de grandeur en dessous de ce qu'on faisait il y a 40 ans. Sachant que pour être capable de retourner sur la Lune, il nous faut des lanceurs de cette capacité, de l'ordre de 100 ou 200 tonnes. Les experts en général considèrent que si on avait un lanceur capable de mettre 200 tonnes en orbite basse, ce qui n'est pas énorme, ce qui permet en gros de mettre 30 ou 40 tonnes véritablement dans l'espace ensuite, on serait capable de mettre dans l'espace tout ce qui est nécessaire pour des missions lunaires, pour des missions martiennes, pour des missions vénusiennes. Donc tous les objectifs dont on peut rêver à court ou moyen terme sont accessibles avec des lanceurs de la classe des 150-200 tonnes. C'est-à-dire des lanceurs à peine plus puissants que ceux des années 60. C'est-à-dire aussi des lanceurs 10 fois plus puissants que ceux dont on dispose effectivement aujourd'hui.
Alors voilà, on a l'impression d'un rêve brisé. Tout le monde s'en est rendu compte assez rapidement. Je pense par exemple à Ballard, dans les années 70, montrait déjà un casque de cosmonaute brisé au bord d'une piscine, un peu comme le symbole d'une aventure qui n'aura jamais eu lieu. Donc, outre la question économique, qui à l'époque était possible parce que nous étions en concurrence politique, on a donc décidé de mettre le paquet sur le plan financier. Il faut peut-être imaginer qu'une nouvelle concurrence politique se met en place pour pouvoir aller dans l'espace. Elle est peut-être en train de se dessiner avec la Chine qui maintenant essaye de se placer en leader dans la course à l'espace. Donc ça va peut-être obliger les gens à se réveiller.
Oui, il y a quelque chose d'un peu triste à spéculer ainsi sur des enjeux politiques. On sait que ça marche, ça a marché une fois. On manque souvent d'imagination, donc on a tendance à s'appuyer sur les ressorts qui ont déjà fonctionné une fois en se disant que ça marchera bien une seconde. Ce qui est une quasi-évidence aujourd'hui, c'est du point de vue économique, c'est la désespérance actuelle de l'économie. On parle en permanence de récession, on parle de... Enfin, l'économie est dans un état extrêmement triste. La croissance qu'on a connue dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui sont essentiellement les 30 années de conquête de l'espace, mais de conquête de toutes sortes de technologies, c'est essentiellement dû à toute une série de projets un peu fous. Le plus important est probablement celui de l'espace. Mais ça peut être, moi je suis physicien, donc je suis assez attaché aussi au projet de recherche de particules élémentaires, donc les très grands accélérateurs qu'on a construits dans les années 80. Je pense au CERN où j'ai un peu travaillé. Le CERN, c'est un accélérateur qui fait, dont la circonférence fait 28 km sous le Jura. Donc je ne sais pas si vous imaginez simplement les problèmes de travaux publics pour faire un accélérateur de 28 km, sachant que la planéité de l'objet est au centième de millimètre. Donc un projet aussi fou. Là je parle de problème de travaux publics, mais qui conduit aussi, puisque c'était le plus grand, le plus bel outil de physique des hautes énergies dont on disposait, c'est aussi un endroit qui a attiré des centaines, voire des milliers de physiciens. Quand j'étais au CERN, il y avait en permanence une demi-douzaine de prix Nobel. Au CERN, donc les assemblées générales où les jeunes physiciens racontaient ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en permanence des plus grands esprits, et c'était un feu d'artifice permanent. Les idées jaillissaient. Vous mettez suffisamment de gens brillants, de toutes les générations, prestigieux, avec des moyens de travailler, il y a forcément des retombées. Alors les retombées sont pas forcément celles qu'on attend. On a effectivement fini par trouver quelques particules élémentaires, mais vous avez là encore probablement appris à l'école ou entendu parler simplement c'est l'an dernier du boson de Higgs qu'on vient de découvrir. Mais à la limite, on s'en fiche un peu. Découvrir telle ou telle particule, être capable de découvrir telle génération de particules plutôt que la suivante. Au pire, les physiciens finiront toujours leur travail, et qu'on leur donne des moyens ou pas, si on ne découvre pas le boson de Higgs en 2009, ça sera en 2015. Et si pas en 2015, ça sera en 2020. Mais ça n'a pas grande importance. Ce qui a de l'importance, en l'occurrence, c'est que, comme je disais tout à l'heure, que la microélectronique était une retombée du programme spatial. Tout ce qui est électronique rapide, par exemple, électronique de très très haute précision, est une retombée du CERN. Là, il s'agissait pas de, c'était pas le problème du poids. C'est un accélérateur géant, donc on peut mettre des ordinateurs géants, on peut avoir des racks d'ordinateurs extrêmement extrêmement lourds. En revanche, il s'agissait d'être capable d'analyser des millions d'événements quasiment simultanément, faire du traitement de données massif. On parle aujourd'hui de big data, mais tous les programmes informatiques, toutes les architectures de réseau qui ont rendu possible Internet, par exemple, le premier réseau Internet est né du CERN. ARPANET, les Américains, la défense américaine le revendiquent le plus souvent, mais les premiers réseaux efficaces d'échange de données, c'était effectivement pour permettre aux physiciens du quatre coins du monde d'aller chercher les images produites par les détecteurs du CERN et de travailler dans leurs laboratoires à Paris, à Londres et ailleurs, aux quatre coins du monde, pour pouvoir les examiner. Et pour pouvoir faire du bon travail, il fallait des images de bonne résolution, et ainsi de suite. Enfin, tout ce qu'on apprécie aujourd'hui dans les transmissions Internet, c'était des conditions sine qua non pour que ces gens-là puissent travailler. Et encore, il n'était pas question d'échouer. Vous aviez des gens tellement brillants à l'œuvre que si une technologie n'était pas disponible, dans beaucoup de domaines où quand on est tout petit, quand on n'a pas les moyens de travailler, on dit ok, c'est dommage, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, et on attendra que ce soit disponible. Quand vous êtes le CERN, quand vous avez des milliers de chercheurs à disposition, quand vous avez des moyens techniques à peu près illimités, une quantité de matière grise rassemblée à peu près illimitée, il n'est pas question de dire non, la technologie n'existe pas, on va faire sans. La technologie n'existe pas, on se retrousse les manches et on la développe. Un très grand nombre de technologies qui étaient nécessaires au CERN ont effectivement été développées parce que ces gens se sont retroussés les manches et ont irrigué ensuite toute l'économie, tous les progrès de la robotique, de l'informatique, d'une façon générale de toutes les très hautes technologies dont on dispose aujourd'hui, sont des retombées que personne n'avait prévues de ces grands projets. Et j'ai dit tout à l'heure, peu importe qu'on ait découvert tel ou tel boson, mais à la limite, peu importe quelle est la nature du grand projet dont on a besoin. Si on lance un immense projet dans la classe, je parlais tout à l'heure des centaines de milliards, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est suffisamment d'argent pour ne pas avoir à se poser de questions si on a besoin de dépenser quelques millions à droite ou à gauche pour développer quelque chose d'un peu farfelu. On les a. Si vous avez suffisamment... Oui, je vois des gens sourire, des centaines de milliards, ça paraît énorme. C'est à comparer aux 1000 milliards, aux 1500 milliards du budget de la sécurité sociale sur un an. On parle d'un mois de budget de la sécurité sociale dans un pays comme la France, alors que ce sont des budgets répartis sur une vingtaine de pays sur 10 ou 20 ans. Donc au final, ce sont des sommes colossales, mais pas tant que ça. Ce sont des investissements qui sont imaginables. Je parlerai de milliers de milliards. Là, je ne suis pas sûr que ce soit envisageable. C'est typiquement la raison pour laquelle le CERN n'aura pas de successeur. Il faudrait effectivement passer à la classe des milliers de milliards d'euros ou de dollars pour avoir une machine encore plus grande et plus puissante. Ça, on ne le fera jamais. Mais quel que soit le type du grand projet, alors que ce soit coloniser l'espace, que ce soit aller chercher des particules dans l'infiniment petit, que ce soit, pourquoi pas inventer, on a beaucoup parlé de robots, inventer une intelligence artificielle, quel que soit le projet, les retombées technologiques du projet et les retombées économiques du projet sont jamais celles qu'on a prédites, mais sont toujours fructueuses. Les Anglais ont un mot pour ça que j'aime beaucoup, qui parle de serendipity. Serendip, c'est en anglais, c'était le nom traditionnel de l'île de Ceylan, dont le climat était réputé tellement beau qu'il suffisait de se pencher pour ramasser des fruits mûrs délicieux. Mais essentiellement, le concept de serendipity, c'est que investissez dans quelque chose, donnez des moyens dans quelque chose, il reviendra toujours 100 fois plus que vous n'avez investi. Et c'est quelque chose qui se vérifie effectivement dans l'histoire de l'économie mondiale. Ça ne se vérifie jamais pour les petits investissements. Quand on fait un investissement mesquin, et là encore mesquin, ça peut se chiffrer en millions d'euros, en milliards d'euros. C'est pas suffisant pour lancer une dynamique collective à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'humanité. Quand on passe dans la classe des dizaines, des centaines de milliards d'euros, pour le coup, on crée une industrie. On met suffisamment de moyens pour lancer quelque chose. Alors, soit on le disperse sur des projets qui n'ont pas grand intérêt ou avec des gens un peu médiocres et ça ne donne jamais rien. Soit on se donne vraiment les moyens de faire un projet qui fait rêver les gens, donc qui attire les créateurs, qui attire les jeunes qui ont envie de s'investir dans un projet un peu magique. Et dans ces cas-là, ça retombe toujours et ça relance toujours l'économie. Et toute l'histoire de l'économie des années 60, 70, 80 montre que toutes les relances économiques, tous les progrès économiques, évidemment tractés par les relances technologiques et les progrès technologiques, ont toujours suivi, sans qu'on l'ait véritablement prévu, des investissements massifs. Et je dirais que s'il y a une bonne raison d'aller dans l'espace, pour moi c'est celle-là. Je n'affirme pas que l'espace est la meilleure locomotive possible pour l'économie. Ce que j'affirme, c'est que l'humanité manque aujourd'hui, et l'Europe en particulier, manque aujourd'hui de grands projets de cette envergure-là. Le plus évident, mais ça c'est probablement générationnel pour moi, c'est l'espace. Ça peut être un autre. Votre génération peut imaginer ses propres défis, ses propres projets, mais il faudra, si on veut se sortir de la déprime économique et de la déprime politique et sociale dans laquelle on est aujourd'hui, il faudra qu'un très grand nombre de gens brillants s'investissent à fond dans un grand projet qui fait rêver. L'espace ou un autre, mais celui-là me plairait bien.
Voilà, donc il faudra aussi, justement, pour les questions économiques, on peut remarquer que la NASA, si vous allez sur leur site, fait souvent des effets d'annonce. Les effets d'annonce sont importants pour dire, ben voilà, on est sur le point d'avoir quelque chose d'important, et donc accordez-nous des crédits. Là aussi, c'est la recherche en général qui est un petit peu biaisée de cette façon. Alors donc, oui, on a besoin d'aller dans l'espace, mais alors, est-ce qu'il faut y envoyer l'humain ou bien seulement la machine ? Pendant un certain temps, on voyait l'humain dans l'espace. De plus en plus, en tout cas actuellement, on envisage seulement d'envoyer des missions robotisées. Patrick Baudry, un spationaute, avait écrit justement un livre, La conquête spatiale, la déroute, pour critiquer ce refus d'envoyer l'homme dans l'espace. Bon, il est à peu près sûr qu'envoyer un humain dans l'espace coûte 10 fois plus cher que d'envoyer une simple machine. Parce qu'il faudra évidemment concevoir l'alimentation, l'oxygène, tous les besoins physiologiques de l'homme. Et c'est de nouveau une question économique qui se pose, mais peut-être aussi une question de sécurité. Il semble que la deuxième étape, le deuxième moment où la NASA a perdu son rêve spatial, c'est avec l'accident de la navette, avec quelques catastrophes comme ça qui ont mis un coup d'arrêt assez important parce que il y avait un coût en vie humaine. Ce que Patrick Baudry, par exemple, refuse d'envisager. Il disait que à l'époque de Magellan, eh bien, les marins s'embarquaient vraiment à l'aventure. On ne savait pas jusqu'où on irait de l'autre côté de l'océan. Savait peut-être qu'il ne reviendrait pas, mais s'embarquait quand même. Aujourd'hui, il y a certainement plein de gens qui sont prêts à vouloir partir dans l'espace. Poser la question à des gens qui, en demandant, on va faire une mission sur Mars, ça va prendre 3 ans, est-ce que vous êtes prêts à partir? Je crois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèveraient. Mais, après, bon, on n'a pas envie non plus d'engager des vies humaines parce qu'il y aura toujours des critiques là-dessus. On avait déjà à l'époque critiqué la Russie avec les accidents non déclarés qu'il y avait eu lors de la conquête spatiale.
Oui, je crois que c'est une analyse qui est pertinente. On a aussi un problème qu'on n'a pas évoqué jusque-là, qui est un problème de courage politique. Il y a une question de responsabilité. Qui est prêt à affronter la responsabilité alors du coup d'un projet fou? Qui est prêt à dire à ses électeurs, eh ben je vais diminuer un petit peu les prestations sociales parce que je veux investir tant de dizaines ou centaines de milliers de milliards d'euros dans l'espace. Aujourd'hui, aucun homme politique ne semble prêt à tenir ce discours-là. Il y en a un qui l'a fait aux dernières élections présidentielles, dont le nom m'échappe sur l'instant. Oui, absolument. Et qui a fait sa campagne, qui a parlé de la conquête de Mars pour sa campagne. Je crois qu'il a fait moins de 1%, de l'ordre de 0,28%, si mes souvenirs sont exacts. Donc il n'y a clairement pas aujourd'hui d'électeurs pour ça, et les hommes politiques qui sont des gens pragmatiques ne sont pas prêts à proposer cet investissement-là. Et la question de la gestion des vies humaines est rigoureusement la même. Les hommes politiques sont prêts à sacrifier des vies humaines sans grande difficulté, ça on le constate tous les jours, à condition que ça ne puisse pas être remonté à l'une de leurs décisions. À partir du moment où il peut y avoir un lien logique entre la disparition de quelqu'un et leur décision de l'envoyer, ils ne prennent plus le risque. Bon, là encore, il y a une certaine cohérence. Les générations précédentes qui étaient optimistes, qui n'hésitaient pas à investir lourdement dans le futur, n'hésitaient pas non plus apparemment à envoyer au pouvoir des hommes politiques courageux, prêts à prendre des décisions risquées et éventuellement se faire virer du pouvoir parce que le peuple n'était pas d'accord avec eux, mais qui au moins suivaient leur idée. Aujourd'hui, il y a un consensus, et c'est même pas un regret de ma part. Les gens qu'on élit, et qu'on élit de façon parfaitement démocratique et relativement consensuelle, sont tous un peu sur le même moule, sont tous plus ou moins des énarques, des gestionnaires, qui veulent gérer au mieux ou au moins mal le futur immédiat, qui considèrent qu'il n'y a que des coûts à prendre à investir dans le moyen et le long terme. Donc essentiellement, on n'investit pas dans le moyen et le long terme. Mais c'est... On a les hommes politiques qu'on mérite. C'est aussi parce qu'on vote pour cela qu'on a cette politique-là.
Alors, il y a peut-être justement un autre danger qui se profile, c'est que si l'on n'envoie que des missions robotisées, par exemple, pour la recherche, l'exploration de l'espace lointain au moyen de télescopes, partira bientôt le JWST, le télescope spatial James Webb, qui va remplacer Hubble, qui aura une surface 6 fois supérieure à Hubble. Il sera lancé en 2018 et donc il permettra de voir l'espace vraiment lointain. Il est capable de détecter dans l'infrarouge. Il verra jusqu'à 13 milliards d'années-lumière, donc à peu près à la naissance des galaxies. Il explorera aussi les exoplanètes et on essaiera peut-être d'en voir réellement une et non pas seulement de voir quelques interférences. Et si on prend encore l'habitude de n'envoyer que des machines, il se pourrait bien que plus tard, on ne soit pas non plus en capacité d'envoyer l'homme dans l'espace. Déjà qu'on ne sait plus aller sur la Lune, on a peut-être reculé sur ce plan-là, et il faut peut-être les envoyer aussi de temps en temps. Ce que disait Patrick Baudry, c'est que les robots peuvent apporter des informations élémentaires sur des milieux actuellement inaccessibles, comme l'espace lointain, effectivement, et que sur la Lune, il ne remplacera jamais la présence de l'homme, ou sur Mars. Si les machines sont capables d'exécuter des tâches simples en étant articulées, on a vu Curiosity sur Mars, il ne pourra pas entreprendre des opérations complexes comme par exemple la construction d'un laboratoire d'astronomie sur Mars ou ailleurs, ou de faire une usine d'extraction minière comme on l'avait envisagé, comme on l'envisage encore pour aller exploiter le sol lunaire et récupérer l'hélium-3 afin de pouvoir réaliser la fusion. On sait que ce n'est pas encore trop possible, mais il y a déjà plein de gens qui se sont inscrits sur la liste pour pouvoir profiter de ça. Donc là, il y a aussi un autre danger, c'est que si on cesse d'envoyer l'homme dans l'espace, ben, peut-être que demain, on ne saura plus le faire.
Oui, ça effectivement, il y a un risque de décadence, fondamentalement. Effectivement, si on cesse d'investir dans le futur, si on cesse de faire progresser la science, elle finira par régresser. Mais je crois pas qu'on en soit encore tout à fait là. Je pense que la technologie dont on dispose aujourd'hui, la technologie du 21e siècle, est largement à la hauteur de celle du 20e siècle. On saurait faire des lanceurs lourds si on le souhaitait. C'est une question d'investissement. Moi, j'aurais tendance à poser le problème dans des termes un petit peu différents et pour le coup plus astronomiques. Il y a différentes cibles. Il y a quatre lieux dans le système solaire, plus peut-être quelques petites lunes qui sont adaptées à l'homme. Il y a bien évidemment la Terre, il y a la Lune où on est déjà allé. La Lune est déjà un territoire extrêmement hostile. La Lune, c'est un terrain sur lequel la nuit fait quelque chose comme moins 150 degrés. Et en plein soleil, vous êtes à plus de 200 ou plus 300.
Il fait plus chaud sur Mars.
Mars a une atmosphère, ça fait déjà une énorme différence. La Lune n'a pas d'atmosphère et pas de bouclier magnétique, donc elle est arrosée en permanence par des radiations cosmiques. En gros, l'homme ne peut pas rester sur la Lune plus de quelques heures, en tout cas face au Soleil. Il serait rôti immédiatement. Donc la colonisation de la Lune serait extrêmement difficile. Bon, on parlait tout à l'heure de Robert Heinlein qui militait pour la colonisation de la Lune, mais ne pas de l'homme sur la Lune, mais de l'homme dans la Lune. Il proposait de creuser la Lune une fois qu'on était sous la surface, avec suffisamment de mètres de terre lunaire au-dessus de soi, on pouvait commencer à se débarrasser des radiations. Mais c'est un projet qui est extrêmement complexe. Donc typiquement, il est probable aller envoyer des hommes sur la Lune, c'est une performance. C'est presque une performance, je disais tout à l'heure, symbolique, mais c'est presque une performance artistique. C'est pour la gloire, pour le plaisir. Mars et Vénus sont des environnements qui sont relativement adaptés à l'homme. Alors relativement, l'atmosphère est beaucoup plus faible, beaucoup plus mince sur Mars que sur la Terre, mais il y a une atmosphère. Les températures sont comparables, alors, typiquement, sur l'équateur en plein été, sur Mars, on peut atteindre 20 ou 25 degrés comme ici aujourd'hui. Ça peut aussi descendre à moins 100 à certains moments. Enfin, on pourrait imaginer s'arranger pour vivre sur Mars. Pareil sur Vénus. Il y a des vents violents à plusieurs centaines de kilomètres heure, des pluies d'acide sulfurique. C'est pas forcément l'endroit où on a envie de passer ses vacances, mais on peut imaginer de se protéger et de vivre sur Vénus. Si on parle des autres planètes du système solaire, c'est même pas la peine de commencer à se poser la question. Jupiter, la gravitation sur Jupiter est telle qu'aucun homme ne pourra simplement survivre quelques heures sur Jupiter. Les planètes géantes sont tout à fait inaccessibles pour l'homme.
Donc on peut être génétiquement modifié.
On peut parler de post-humain. Mais en tout cas, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui pourrait aller sur Mars. Et personnellement, j'espère qu'on ira sur Mars dans un futur proche. Ça, il suffit de le décider. Il suffit de le vouloir suffisamment fort pour y accéder. Retourner sur la Lune, si on veut. Là, personnellement, j'ai plus de mal à voir pourquoi on voudrait s'installer sur la Lune. Donc la question de est-ce qu'on envoie des hommes, est-ce qu'on envoie des machines se pose effectivement pour ces corps-là. Comme Mars est clairement la prochaine cible, la question est en plein dessus. Mais là, pour le coup, la réponse dépend de ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des lanceurs de la glace, des 20 tonnes en orbite basse. Ça suffit pour envoyer des petits robots sur Mars, ça suffit pas pour envoyer des hommes. Si on avait un lanceur de la classe des 200 tonnes, vous pouvez être sûr que la NASA changerait de registre et de discours et dirait maintenant on va relancer des missions habitées sur Mars. Si on parle des planètes géantes du système solaire, là évidemment ce sont les machines qui peuvent les explorer à notre place. L'homme n'y a clairement pas sa place. Alors les planètes géantes, les planètes très très lointaines, extrêmement froides aussi, dans les Pluton et au-delà, clairement si on les explore un jour, ce sera avec des machines. Et si on va au-delà du système solaire, on n'a simplement pas d'idée aujourd'hui de la façon dont on pourrait y aller. Donc dans un futur imaginable, on n'en verra ni homme ni machine. Quand la question se posera pour la première fois, et ça ne sera probablement pas au XXIe siècle, j'espère qu'on sera en mesure de coloniser le système solaire au cours du XXIe siècle, d'avoir des hommes sur Mars peut-être d'ici 20 ou 30 ans. Sortir du système solaire, pour moi, c'est plutôt à l'horizon de 2 ou 3 siècles.
Oui, à peu près. J'avais imaginé avec Roland Lehoucq une sorte de vaisseau spatial de génération pour nous rendre sur un autre monde à quelque chose comme 12 ou 13 années-lumière de là. On avait choisi un soleil qui pouvait être acceptable. Les calculs, c'est Roland, hein, évidemment. On avait calculé qu'il fallait à peu près 450 ans pour y aller. Donc ceux qui s'embarquent savent qu'ils n'arriveront jamais, qu'il va y avoir des gens qui vont se reproduire, vivre à bord, et que même tous ceux qui vont naître entre-temps ne seront pas ceux qui descendront. Est-ce qu'après, on aura encore envie de descendre ? Alors, le calcul montrait qu'il faut emmener en même temps tout ce qui est nécessaire à la vie de l'homme. Donc, il va falloir des cultures, il va falloir recycler l'oxygène. Donc, il faut de l'eau, il faut de la terre. Tout ceci a été calculé. Ça faisait un poids astronomique pour un vaisseau spatial. Il ne s'agissait pas de le lancer depuis la Terre. Ce n'est pas possible, évidemment. Donc, il faudra probablement évider un astéroïde. En gardant une couche de roche, ça c'est intéressant, qui sera assez épaisse pour nous protéger des rayons cosmiques. C'est même Tsiolkovsky, le père des fusées, qui avait imaginé le premier ce principe. On prend un rocher, on fait un trou, dans le rocher il y a de l'oxygène, on pourra donc récupérer tout ça, on fera les cloisons. Derrière on met un propulseur et puis ça y est, on s'en va. Mais enfin bon, dès que l'on se met à imaginer l'ingénierie nécessaire à ça, pour le moment c'est tellement gigantesque qu'on n'y arrivera pas. On devait écrire la suite de cette aventure, parce que pour le moment que c'était les plans qui étaient posés. Bon, on n'a pas trop le temps de s'y mettre, mais j'ai déjà imaginé que deux ou trois choses sur le tome 2. La simple difficulté d'évider un astéroïde est énorme, parce que si on fait des trous dans la roche, c'est facile de forer sur Terre, mais ça va générer des poussières qui seront autour de l'astéroïde et qui finalement vont devenir très rapidement gênantes. Donc il faudra déjà penser à le bâcher. Il faut arriver à se poser sur un astéroïde qui ne tourne pas sur lui-même à toute vitesse. On a vu le problème aussi avec Hayabusa, qui a eu du mal et a rebondi. Et puis à partir du moment où on commence à évider, vous voyez les tunneliers qui ont permis de creuser le tunnel sous la Manche. Ce sont des pointes de diamants énormes, ce sont des machines totalement gigantesques, mais qui chauffent très vite aussi quand ça tourne, et donc qu'il faut refroidir. Imaginez si vous refroidissez avec un jet d'eau un appareil de ce type dans l'espace, eh bien vous aurez des gouttelettes gelées qui vont aussi tourner autour. Donc il faudra imaginer des systèmes de refroidissement interne. Il y a donc énormément de problèmes qui se posent rien que pour arriver à évider un astéroïde. C'est facile de dire on fait un trou et puis on y va. Voilà. Alors pourtant, le rêve existe encore pour l'exploration spatiale, et c'est quand même assez curieux que ce soit des agences privées, enfin des sociétés privées qui s'occupent de proposer du tourisme spatial. Pas n'importe qui, on a Elon Musk, on a Jeff Bezos, hein, donc le fondateur d'Amazon, qui aujourd'hui essaye de réaliser des fusées récupérables. Et il est aussi marrant de voir que la NASA commence à faire appel à eux, comme elle avait à un moment fait appel à l'Union soviétique puis à la Russie pour envoyer parfois des missions de ravitaillement pour les gens qui étaient là-haut, puisqu'elle avait quelques petits problèmes pour envoyer ses propres vaisseaux. Donc là, peut-être maintenant, une des étapes qui continuera à faire rêver, c'est, le tourisme spatial, on ne va pas bien loin, mais ça permet d'entretenir peut-être la flamme.
J'ai peur de revenir en permanence sur des sujets pas très très drôles, mais je vais revenir un instant au-delà de l'aspect économique sur l'aspect organisationnel. Tu parlais de la NASA. Pour moi, ça n'a absolument rien de surprenant que la NASA soit aujourd'hui une institution conservatrice et réactionnaire. La NASA a été... C'est quelque chose qui arrive systématiquement à toutes les grandes organisations. On crée une organisation pour faire quelque chose. En France, on parle des grands corps. On crée un grand corps d'ingénieurs quand on a un véritable problème. On a besoin de fabriquer la bombe atomique, on va créer le CEA. On constate que la France est très en retard dans le domaine des télécommunications. On crée le corps des télécommunications au début des années 70, et 5 ans après, la France est leader mondial des télécommunications. On sait très bien, et en particulier en France, mais également aux États-Unis, créer des institutions, des grandes organisations capables de répondre à un problème technique. C'est ce qui s'est passé pour la NASA. On a créé la NASA, on voulait aller dans l'espace, on voulait aller sur la Lune. On a créé la NASA. C'est un peu le même mécanisme que j'écrivais tout à l'heure. On a mis tous les jeunes gens brillants, tous les jeunes ingénieurs brillants américains qui voulaient être à la pointe des projets des américains dans les années 50-60 sont bien sûr devenus ingénieurs spatiaux à la NASA. Et ça a été l'une des plus belles aventures de l'histoire de l'humanité. La NASA a connu un triomphe et a effectivement mis un homme sur la Lune en 69. Et puis la NASA a continué à exister, la NASA a continué à dépenser de l'argent. Quand on crée un grand corps, quand on crée une administration, il est beaucoup plus facile de lui créer une ligne budgétaire que de la supprimer. 40 ans après, le budget de la NASA est essentiellement le même qu'il était dans les années 60. Donc l'investissement américain dans le domaine de l'espace et dans la NASA est essentiellement le même, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien. Donc l'argent que j'évoquais tout à l'heure est effectivement déjà dépensé dans les projets de la NASA, sauf que ce ne sont plus des grands projets. Les jeunes ingénieurs brillants des années 60, maintenant, bon, d'ailleurs, sont à la retraite pour la plupart, mais les cadres de la NASA sont plus des jeunes gens avec des étoiles dans les yeux qui veulent aller sur la Lune. Ce sont des vieux messieurs qui se souviennent d'avoir participé à l'aventure lunaire. Et les technologies qu'ils promeuvent, qui étaient les technologies qu'il fallait développer dans les années 60 et qu'ils ont effectivement réussi à développer dans les années 60, tous les carburants solides, enfin, toutes les technologies qui ont effectivement mené à Saturne V et au projet Apollo, devaient être développées dans les années 60, et c'est un des grands triomphes de la NASA. Les mêmes ingénieurs qui ont développé ces technologies et qui continuent à considérer que ce sont évidemment les plus belles technologies du monde parce que ce sont les leurs, sont toujours les patrons de la NASA. Et les partenaires de la NASA, les Boeing, les Lockheed, enfin les géants du complexe militaro-industriel qui ont contribué à cette aventure, n'ont absolument aucun intérêt à développer d'autres technologies. Ils sont les maîtres de cette technologie-là et ils sont payés par le gouvernement américain pour continuer à vendre cette technologie-là à la NASA. Pourquoi chercher à développer quelque chose de nouveau où ils ne seraient pas forcément les meilleurs? Si vous cherchez à développer une nouvelle technologie, ce sera plutôt une start-up qui va partir avec de nouveaux jeunes gens brillants, une nouvelle génération avec de nouvelles idées, qui va développer des technologies qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas quelle sera la bonne technologie pour la prochaine génération de fusées, mais l'intérêt de ceux qui savent déjà construire des fusées des années 60, c'est qu'on continue à construire des fusées des années 60 et surtout pas qu'on passe à la génération suivante, parce que leur administration, leur société a toutes les chances de ne plus être à la pointe de ce projet-là. Et donc la NASA est essentiellement devenue aujourd'hui une machine à empêcher les gens à lancer des projets véritablement novateurs.
Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller dans l'espace? Je parle là maintenant d'intérêt immédiat. Qu'est-ce que l'on peut faire avec tous nos satellites? Qu'est-ce que l'on veut faire avec les satellites que l'on envoie dans l'espace? Mis à part, donner la télévision et puis la géolocalisation à tout le monde pour vos smartphones.
Je crois que la plupart des technologies existent déjà, des applications existent déjà. Je pense que la première application des satellites aujourd'hui, c'est les télécoms. Et une bonne partie des télécommunications mondiales, alors il y a les fibres optiques qui sont extrêmement utiles pour les liaisons à très très haut débit. Si on a besoin non plus d'une liaison à très très haut débit, mais d'une liaison qui est capable de relier à peu près n'importe quel point de la planète à peu près n'importe quel autre point de la planète, les télécommunications par satellite sont indispensables. La transmission de données par satellite, les satellites pour la télévision, pour de toute façon générale, pour toutes les transmissions d'informations possibles et imaginables, c'est une technologie indispensable aujourd'hui. Pour l'observation de la Terre, aujourd'hui on est capable quasiment d'avoir une résolution de quelques centimètres pour les meilleurs satellites, plutôt les applications militaires. On peut acheter, vous pouvez acheter aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros des photographies de votre jardin avec une résolution de 5 ou 10 mètres. Il y a tout un tas d'applications qui sont utilisées aujourd'hui. Le paysan de base est capable aujourd'hui, s'il est un peu tourné vers la technologie, d'aller surveiller quasiment en temps réel l'état de ses cultures dans le champ qui est à 80 mètres de chez lui. Mais ça prend moins de temps d'afficher une photo satellite de son champ que de faire les 80 mètres pour aller voir son champ. Donc c'est une technologie qui est aujourd'hui une technologie quotidienne. Ce sont des technologies des années 80. Les années 80, c'était il y a 30 ans, bientôt 40. Donc c'est une technologie qui est complètement maîtrisée, qui nous est aussi indispensable que l'ordinateur.
Et qui sert à l'économie, même à la macroéconomie, puisqu'il y a des opérations boursières qui vont se faire à partir de là. Lorsque l'on voit que telle région du globe aura de mauvaises cultures ou que telle autre sera riche, on sait déjà à peu près évaluer le prix des denrées sur le marché. On sait que le prix du blé sera de tant parce qu'on a pu déjà observer ça par satellite. Petit détail en passant, à propos de ces satellites en orbite géostationnaire, elles s'appellent aussi les orbites de Clark, puisque c'est l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui l'avait imaginé dans un article et dans une nouvelle. Il est peut-être temps, oui, de vous laisser peut-être la parole et de poser les questions, si vous le désirez.
Donc merci et bonjour. Je voulais vous poser des questions déjà sur le projet de l'ESA d'aller justement coloniser la Lune. Pensez-vous que c'est un projet réaliste d'envoyer des robots pour construire par une impression 3D, enfin similaire à l'impression 3D, des habitats lunaires pour l'homme?
Pour une part, j'ai déjà répondu tout à l'heure, je pense que la Lune est un milieu très hostile pour l'homme, donc créer des habitats pour l'homme, c'est un projet beaucoup plus lourd qu'une imprimante 3D. Il faudrait, c'est d'abord un problème de génie, le mot m'échappe, mais de construction. Il faut creuser, construire du béton, et c'est relativement lourd. Cela dit, envoyer l'équivalent d'une imprimante 3D, puisque c'est une technologie à la mode aujourd'hui sur la Lune, c'est quelque chose qu'on pourrait faire relativement facilement. Et effectivement, on pourrait tout à fait imaginer d'utiliser la faible gravité de la Lune pour faire là-bas des choses qu'on a plus de mal à faire ici. Donc des habitats humains, c'est-à-dire des choses à l'échelle de la dizaine de mètres et de quelques dizaines de tonnes ou quelques centaines de tonnes, j'y crois pas beaucoup. Parce que on en est encore au stade, et on sera durablement au stade où, quoi qu'on veuille faire sur la Lune, il faudra amener de la Terre le matériau de base. Et envoyer des équipements de quelques tonnes sur la Lune, c'est envisageable. Envoyer des équipements, enfin, simplement du béton, simplement de quoi faire des infrastructures sur la Lune, ça se fera pas. Peut-être qu'un jour on aura les moyens de récupérer les matériaux directement sur la Lune et de se servir des matériaux sur place pour faire des constructions, pour faire des choses lourdes. Pour l'instant, on en est à bricoler, et bricoler, ça veut dire travailler avec les petites quantités de matière qu'on est capable d'amener de la Terre. Donc faire la démonstration qu'on est capable de faire quelque chose, oui, on peut tout à fait, et on peut faire de très très jolies choses. En général, quand c'est à petite échelle, ce sera plutôt des projets scientifiques, parce que c'est là qu'on a le plus fort retour sur investissement. Passer à l'échelle supérieure pour des gros objets, des objets à dimension simplement humaine de quelques mètres, c'est pas encore pour tout de suite. Je dis pas pour tout de suite. Pour moi, je donnais tout à l'heure le terme de 20 ou 30 ans. Je pense que si on se décide typiquement, je parlais de la nécessité d'avoir un lanceur de la classe des 200 tonnes qui changerait déjà les choses. Passer de 10 à 200 tonnes là-dessus, ça change complètement la donne. C'est quelque chose qu'on peut développer en 10 ans. Et je ne parle pas au hasard, c'est ce qu'a fait la NASA pour le projet Apollo. Donc en 10 ans, ils ont développé Saturne 5. Avec les progrès technologiques actuels, si on met toute notre technologie du 21e siècle dans un projet de ce genre, un lanceur de la classe des 200-250 tonnes, on peut l'avoir dans 10 ans sans difficulté, et donc être de retour sur la Lune dans 15 ans, éventuellement avoir un homme sur Mars dans 15 ou 20 ans, c'est tout à fait envisageable si on y met les moyens. Mais ça sera encore durablement, les premières missions seront des allers-retours où on travaillera avec ce qu'on apportera avec nous, et ça sera forcément pas très très lourd dans un premier temps.
Merci pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de la conquête de l'espace, mais l'autre intérêt aussi de maîtriser l'espace, c'est peut-être de défendre notre planète contre une agression type météorite. Est-ce qu'on a désormais déjà les moyens de défendre la planète contre ce type d'agression? Sinon, dans quel délai? On a parlé récemment de la météorite de Tchoury, etc., et du développement de la technologie européenne par rapport à ça.
Alors, la question se pose, effectivement. Bon, tout dépendra du type d'astéroïde qui viendra, de sa taille et autres. Jusqu'à présent, bon, énormément d'objets ont été repérés. Ceux qu'on n'a pas encore vus, c'est qu'ils sont vraiment très petits. On sait aussi quelles sont les orbites des géocroiseurs, hein, comme on les appelle, et à quel moment ils risquent de modifier légèrement leur trajectoire et de venir sur la Terre. Il y a différents moyens. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer les moyens hollywoodiens où l'on va envoyer une bombe nucléaire, quoi. Ça ne ferait que multiplier les cailloux qui s'écraseraient sur la Terre. Le simple fait de jouer avec la gravité, de se mettre avec un vaisseau spatial au-dessus d'un géocroiseur permet de légèrement, le jeu de la gravité, de le dévier et donc de l'emmener ailleurs. Bon, après on ne peut pas savoir de quoi est fait ce corps, il faudra peut-être bien le réfléchir, parce que si à l'intérieur ce n'est que de la glace et non pas de la roche agglomérée, il pourrait très bien se briser en deux avec une partie qui file dans l'espace et puis une autre qui descend, le remède serait pire que le mal. En tout cas, on y pense. Et je pense qu'on commence à être relativement prêt par rapport à ce genre de danger. Mais après, le risque zéro n'existe pas, évidemment.
Moi, je ferai une réponse. En fait, je suis tenté de faire deux réponses distinctes. D'une part, pour la question précise que vous posez, le théorème de Thalès nous vient très vite à notre secours. En fait, si on essaye de faire comme Bruce Willis dans Armageddon, c'est-à-dire attendre qu'un astéroïde soit très près de la Terre pour le dévier, c'est pas à notre portée, ça ne le sera pas de sitôt. Et comme disait Claude, mettre des tas de bombes atomiques dans l'espace pour mettre des énergies colossales pour dévier un astéroïde, ça risque de faire plus de mal que de bien. En revanche, si on le prend très très loin de la Terre, une toute petite déviation, un tout petit angle, multiplié par une base très très longue, peut permettre sans aucun problème de lui faire rater la Terre. Donc le problème dans ce domaine n'est pas tant le problème de puissance appliquée ou de force appliquée sur le satellite, sur l'astéroïde pour le dévier, que du moment où on le fait. Donc le problème est un problème de détection. Donc la question est, est-ce qu'on est capable de détecter, est-ce qu'on serait capable de détecter suffisamment en amont dans le temps un satellite encore très très loin, avec suffisamment de précision pour savoir non seulement où il est, mais quelle est sa trajectoire exacte pour savoir s'il va venir percuter la Terre. Donc d'un point de vue théorique, il n'y a aucun problème. Ensuite, ça veut dire qu'il faut mettre suffisamment d'observatoires un peu partout dans l'espace, enfin autour de la Terre, pour observer dans toutes les directions. C'est un projet coûteux. Typiquement, c'est le genre de projet dont je parlais tout à l'heure, de la classe des quelques centaines de milliards, qui permettrait sans doute effectivement de développer des tas de technologies intéressantes, aussi bien au niveau de la détection, de la gestion automatique d'un réseau d'un millier de satellites regardant toutes les directions, de surveillance en permanence de tout ça. Il y a un gros travail d'informatique, de gestion, de traitement des données, de capacité d'envoyer un vaisseau, donner la petite impulsion qu'il faudra à quelques millions ou milliards de kilomètres. Tout ça, c'est un projet géant qui pourrait être tout à fait intéressant. Les technologies requises sont presque à notre portée, mais à petite échelle. Et il faudrait faire ça à une échelle colossale, et ça, pour le coup, c'est... On ne prend pas tout à fait cette direction-là. Je vais donner un autre élément de réponse. Protéger la Terre, pour moi, c'est le véritable. À titre personnel, le danger pour la Terre qui m'inquiète, c'est pas qu'un astéroïde vienne nous frapper. Les chances sont quand même relativement limitées. Alors ça va arriver quelque part dans les quelques dizaines de milliers d'années qui viennent, mais on a probablement un temps de réflexion devant nous. Le véritable danger aujourd'hui, c'est quand on est en train de flinguer l'écologie de la Terre. Vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique et ça dérape vraiment. Et ça, c'est une question qu'il faut régler au cours du 21e siècle. Donc on va avoir besoin, et bon, il est peut-être encore temps de corriger les choses pour qu'on ne parte pas sur une véritable catastrophe climatique. Mais là encore, on n'en prend pas le chemin. Donc les moyens politiques d'empêcher par des moyens diplomatiques et d'autolimitation la catastrophe climatique sont probablement encore accessibles aujourd'hui, mais ne le seront plus dans 5 ou 10 ans. Et on est vraiment au moment où quasiment au point de non-retour. Ça veut dire que si on franchit ce point de non-retour, on ne pourra plus compter sur les bons comportements des uns ou des autres. On aura besoin d'une ingénierie du climat pour re-terraformer la Terre. C'est-à-dire, on aura besoin de changer le climat de notre propre planète. Là encore, c'est parler de défis, c'est probablement un des défis technologiques qui peuvent redynamiser l'économie et tout ça. Cela dit, ça sera monstrueusement dangereux. On parle de changer le climat de la Terre, ça veut dire libérer des quantités d'énergie colossales ici ou là, enfin là où il faut, pour déplacer des continents entiers de glace, enfin dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ça sera des technologies extrêmement dangereuses. Vous imaginez que si on est capable de changer la température de la Terre de quelques degrés, si on se loupe et qu'on le fait dans le mauvais sens, on a un gros problème. Donc ces technologies-là, pour moi, devront être testées avant d'être déployées sur la Terre. Ne peuvent pas être testées sur la Terre elle-même parce que ça serait suicidaire. Et pour moi, l'endroit où on va tester tout ça, c'est forcément Mars ou Vénus. Et j'aurais tendance à dire que la meilleure raison d'aller sur Mars et d'aller terraformer Mars, c'est pas tant qu'on a besoin de terraformer Mars, c'est que ça va nous permettre de développer des technologies dont on aura besoin à relativement court terme, je dis à 50, j'entends à 50 ans ou un siècle, pour rendre notre Terre de nouveau vivable. Et que toutes les erreurs technologiques qu'on va faire à ce niveau-là, je préfère qu'on les fasse sur Mars ou sur Vénus plutôt que chez nous.
Il y a une dernière question derrière, après on sera pris par le temps.
Bonjour. Vous parliez d'envoyer une mission vers une destination qui impliquerait qu'il y ait plusieurs générations d'humains avant d'arriver justement sur cette destination. Et du coup, je me posais la question d'un point de vue biologique. Qu'est-ce que ça implique, la procréation dans l'espace ? J'imagine bien que physiquement, il y a des changements, peut-être au niveau gravité, je ne sais pas. Enfin, je me pose vraiment la question. Au niveau procréation dans l'espace, biologiquement, qu'est-ce que
le
ça
changement
implique ?
Biologique de l'humain. Oui, bon, on a imaginé effectivement que physiologiquement, il y a plein de choses qui changent. D'ailleurs, le retour sur Terre de certains cosmonautes n'est pas évident. On les met d'abord sur des chaises roulantes. Le déplacement du sang n'est pas le même. Le cœur, en absence de gravité, doit pomper beaucoup plus fort. Il y a donc l'accumulation du sang dans certaines parties de l'organisme risque de provoquer quelques accidents, bien évidemment. Il y aura des changements. Alors, il faudra aussi imaginer une gravité artificielle, par exemple, pour pallier ce problème. Le fait même de vivre dans l'espace doit modifier même quelque chose de l'ordre de l'habitude, hein, et du comportement. Tu en imagines peut-être quelques autres, hein.
Oui, mais j'aurais tendance à rebondir sur ce que disait Claude, mais en rappelant que faire une gravité artificielle, c'est très très facile. La force centrifuge est une gravité artificielle. Vous avez tous vu des images, par exemple dans 2001, Odyssée de l'espace, de vaisseaux tournant sur eux-mêmes. C'est très très facile de reproduire une gravité compatible avec la vie humaine. Donc si on parle d'un tout petit vaisseau, c'est compliqué d'envisager ce genre de choses. Dès qu'on parle d'un véritable vaisseau géant capable d'emporter un véritable équipage, on peut imaginer qu'il est assez grand pour qu'on le mette en rotation. Donc je dirais que ça c'est pas un gros problème technologique, on saurait faire déjà aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous.
Merci et bonne fin de festival.